Et justement, pour s'imprégner de cette guerre de sécession, de cette guerre civile américaine, quoi de mieux qu'un passionné? Et les rendez-vous historiques cette semaine ont justement fait appel à un passionné, Mark Vinette, historien, conférencier et même auteur sur la période de la guerre civile américaine. Mark, bonjour.
Salut Denis, ça va bien?
Ça va bien et toi?
Excellent.
Mark, cette semaine, naturellement, là c'est ta tasse de thé, là, la guerre civile américaine. Tu as même écrit un livre là-dessus, il y a un site internet, mais ça on pourra y revenir un peu plus tard au cours de l'entrevue. Bon, premièrement, là, pour situer les gens, quel est le portrait sociopolitique aux États-Unis à l'aube de la guerre?
C'est une guerre du 19e siècle, 1861 à 1865. Donc le Canada n'est même pas un pays encore.
C'est vrai.
Donc les États-Unis, c'est un pays qui se trouve être formé de 34 États. Et le pays est vraiment divisé en deux régions, le Nord et le Sud. Au Nord, on retrouvait la majorité des États anti-esclavagistes avec une population de 21 millions.
Mm-hmm.
Au Sud, on retrouve 11 États avec une population de seulement 9 millions, dont 4 millions d'esclaves. Donc imagine seulement 5 millions de Blancs.
Est-ce que le reste du globe, Mark, porte une attention particulière à ce qui va se passer en sol américain?
Absolument, et la raison, c'est le coton.
Ah bon?
Je dois, Denis, comparer le coton du 19e siècle au pétrole du 20e siècle et le 21e siècle. Le coton sudiste alimentait les usines, comme j'ai mentionné, au nord des États-Unis, en France et en Angleterre, partout en Europe. Donc, les Européens avaient une certaine sympathie économique pour les sudistes, malgré que les Européens, à l'époque, rendus en 1860, avaient terminé leur aventure avec l'esclavage africain. Donc, on voulait appuyer les sudistes en ce qui concerne leur révolte ou leur rébellion, mais en même temps, on devait demeurer neutre parce que on avait toujours le gouvernement fédéral à Washington, le gouvernement de Abraham Lincoln, qui demandait de l'appui de son côté. Mais c'était une neutralité un petit peu à la Franklin Delano Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les États-Unis étaient neutres, ils ont quand même aidé pendant les premières années le gouvernement de Winston Churchill.
D'accord. On mentionne souvent que l'esclavage était au centre du conflit. Est-ce que c'est l'élément déclencheur, le point central de cette guerre?
Ça demeure une grande controverse dans le milieu de la guerre de sécession, même au 21e siècle. Les historiens qui ont des différentes opinions, les sudistes aujourd'hui prétendent que non, c'était pas la seule raison pour la guerre. C'était une question de liberté et de droit d'État. Et l'esclavage était un des points centraux de cette question. Donc, d'après moi, l'esclavage, oui, c'est le point central. Il y avait beaucoup d'autres questions autour, mais c'est la question de l'esclavage, est-ce que les États-Unis étaient pour continuer à reconnaître de façon légale l'esclavage dans certaines régions ou est-ce que l'esclavage était pour être éliminé de façon complète?
D'accord.
Faut souligner une chose importante, Denis.
Oui.
Abraham Lincoln n'avait pas comme but d'éliminer l'esclavage du sud des États-Unis quand il est devenu président.
Ah, ça, c'est intéressant.
Son but, c'était de ne pas permettre l'esclavage de se répandre dans les nouvelles régions, les nouveaux territoires de l'Ouest. Mm-hmm. Il était prêt à accepter que l'esclavage continue dans le sud, puis sachant qu'après quelques années ou décennies, l'esclavage était pour se terminer, la technologie changerait les choses sur les grandes plantations et que l'esclavage ne serait plus important.
Donc, il a voulu couper la poire en deux, peut-être.
Il a voulu, oui, à un certain niveau, oui, il a voulu dire aux sudistes, je vous permets de continuer votre système d'esclavagisme, mais je ne vous permets pas de le répandre ailleurs. Mais les sudistes, sachant comment la démocratie fonctionne, s'ils ne pouvaient pas répandre leur système esclavagiste ailleurs, ils auraient perdu des plumes dans le Congrès américain, ils auraient perdu des votes, des représentants, ils seraient devenus une minorité.
Jusqu'à quel point, Mark, on parle d'un déchirement, entre guillemets, là, entre citoyens, souvent obligés de choisir la terre familiale, peut-être au détriment de tout le reste, même certaines connaissances qu'on avait ailleurs?
Denis, je vais t'expliquer le tout avec des personnes très célèbres.
Oui.
Le général Lee. Le général Lee était un grand héros, soldat américain depuis plusieurs décennies, un homme extrêmement respecté et admiré. Et quand la guerre s'est déclenchée, lui, avec sa femme, demeurait l'autre côté de la rivière de la capitale de Washington. Il était dans l'État de la Virginie, mais juste l'autre côté de la rivière. Donc, General Lee vit très près de Washington. C'est un général dans l'armée américaine. La guerre se déclenche. Abraham Lincoln demande au général Lee de devenir le général en chef des armées unionistes. Et General Lee est obligé de dire non et devenir un confédéré parce qu'il n'est pas prêt à assumer le contrôle de l'armée du Nord pour s'en prendre contre son État sudiste de la Virginie. Donc, un déchirement important. Ensuite, Jefferson Davis, le président de la Nouvelle Nation sudiste, lui aussi quitte le gouvernement américain pour devenir un confédéré sudiste et président de la Confédération parce que c'est un homme du Mississippi, un homme du Sud.
Oui.
Donc, on voit le déchirement au niveau de ces hommes célèbres, mais aussi à l'intérieur des familles où c'était vraiment frère contre frère, où il y avait des membres de certaines familles qui étaient des nordistes, qui vivaient au nord, et d'autres qui étaient encore au sud. Et puis, on s'en prenait sur les champs de bataille entre cousins, entre frères, pour des raisons idéologiques et aussi politiques. On choisissait un côté ou l'autre, et puis souvent, on se retrouvait face à face, fusil à fusil sur des champs de bataille.
Peut-on dire maintenant qu'il y avait, Marc, une animosité marquante entre le Nord et le Sud, ou cela s'est simplement amplifié avec le temps, puis avec les auteurs, peut-être?
Non, c'est pas amplifié avec le temps et les auteurs. À l'époque, c'était carrément une guerre d'idéologie, aussi une guerre verbale. Il y a eu des discussions très féroces au niveau politique entre le Nord et le Sud. On venait toujours à bout de régler avec certains compromis politiques. Mais en 1861, avec l'élection d'Abraham Lincoln, les sudistes ont vu leur sort mis en péril et ont décidé de prendre les armes. Pas pour envahir le Nord, mais pour défendre leur nouveau pays. Eux ont vu les actes d'Abraham Lincoln comme une invasion. Une armée du Nord a envahi leur nouveau pays, le Sud, et puis eux faisaient tout simplement le défendre. Donc, c'était leur position du début à la fin. Est-ce qu'il y avait une animosité extrême? Oui, absolument. Très marquante, parce que malgré qu'on ne pensait pas de déclencher une guerre qui aurait duré 4 ans avec 620 000 morts, on a quand même pris les armes et on était prêts à s'affronter sur un champ de bataille. L'animosité verbale est devenue une animosité et une agression physique qui a fait plusieurs victimes.